On a l'impression de déjà connaître ce personnage parce qu'on l'a vu dans les livres. Les artistes se sont amusés à le dépeindre comme ils l'ont imaginé. Et on l'a à peu près tous imaginé de la même manière, ce qui fait que on a presque une idée de qui il est, c'est un petit peu comme si on l'avait déjà vu. L'Ancien Testament nous parle de ce prophète, habillé d'un long manteau de poils avec une grande ceinture de cuir. Il avait des sandales usées par les longues marches qu'il avait faites, parce qu'à l'époque, il ne prenait ni le train, ni la voiture, ni l'avion. Il allait à pied. Et quand il allait à pied, il allait d'un pas décidé. C'était un homme construit dans le roc. On l'imagine avec ce grand front droit, des gens volontaires. Lorsqu'il allait quelque part, il y avait une ambiance d'action, une ambiance de révérence autour de Élie, le prophète. Il était connu pour son manteau de poils et sa ceinture de cuir. Il avait un serviteur, Élisée, un peu le même genre, mais probablement plus jeune, probablement pas aussi costaud que lui, mais avec cette même foi, avec cette même persistance dans l'obéissance au commandement de Dieu. Élie avait installé en Israël des écoles de prophètes, parce qu'il fallait absolument que la nouvelle génération reçoive la parole de Dieu. Alors il avait installé dans différents lieux des écoles de prophètes. Non pas que tous ceux qui étaient là allaient devenir des prophètes et prophétiser, mais ils étaient là pour recevoir la parole de Dieu. Et un jour, Élie et Élisée ont décidé de faire le tour des écoles, tournée d'inspection du directeur général. Ils étaient à Gilgal en Samarie, et Élie a dit à son serviteur, « Écoute, je vais aller à Bethel voir l'école de Bethel, reste ici. » Élisée lui a dit, « Te laisser aller seul ? Pas question, je vais avec toi. » « Ok, alors les voilà tous les deux partis, en chemin. » Ils arrivent à Bethel. Il y a une école. Ils visitent l'école. Il y a de nombreux élèves. Combien, je ne sais pas. Mais c'était une grande école. Après un certain temps, Élie dit à son serviteur, « Écoute, le Seigneur m'envoie à Jéricho. Reste donc ici. » « Comment ça, te laisser aller tout seul à Jéricho ? Pas question, je vais avec toi, dit Élisée. » Alors ils vont faire à pied les 20 kilomètres qui vont descendre à Jéricho. Jéricho dans la vallée du Jourdain, tout en bas, 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Elles vont faire ce chemin et ils vont arriver à l'école des prophètes de Jéricho. L'école des prophètes de Jéricho contenait de nombreux élèves. Combien ? Je ne sais pas. Mais plusieurs d'entre eux vont dire à Élisée, « Est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui ?» Et Élisée leur dit, « Oui, je suis au courant, taisez-vous, n'en parlez pas. » Seulement, ces élèves-là n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Aucune idée. Est-ce qu'il va partir en voyage ? Est-ce qu'il va être enlevé et mis ailleurs ? Est-ce que l'esprit va le faire disparaître et l'envoyer en mission au loin? Est-ce qu'il va mourir comme Moïse est mort? Il savait qu'il allait se passer quelque chose, mais quoi? Il n'était pas sûr. Il voulait simplement s'assurer que Élisée était au courant. Oui, je suis au courant. Pas un mot là-dessus. Alors, ils font le tour de cette école pour s'assurer que tout va bien. Et puis, Élie reprend son chemin. Et il va vers le Jourdain qui est distant de 5 à 8 kilomètres, suivant l'endroit. Et Élisée va avec lui. Parmi tous les élèves qui sont là, il y en a 50 qui se disent, « Moi, je veux voir ce qui va se passer. » 50 de ces élèves vont monter sur un promontoire et suivre du regard Élie et Élisée dans leur chemin vers le Jourdain. Ces 50 sont là et ils regardent. Vous les voyez avec leurs jumelles là qui sont en train de regarder Élie et Élisée sur le chemin qui va vers le Jourdain. Et quand ils arrivent au Jourdain, Élie prend son manteau, roule son manteau. Parce qu'on ne va pas traverser à pied, c'est le printemps, c'est la crue, le Jourdain est gros. Roule son manteau et il frappe les eaux du Jourdain. Et les eaux s'ouvrent. Vous imaginez les 50 élèves qui sont là, ils se disent « Waouh !» On savait que Élie était un prophète puissant. Mais là, il y a quelque chose qui dans leur tête leur rappelle évidemment le passage de la mer Rouge. Vous vous souvenez, c'est ce que Moïse avait fait. Il avait frappé les eaux de la mer Rouge et ça s'était ouvert pour que le peuple puisse traverser. Et puis, bien entendu, ça leur rappelle à ce même endroit le passage du Jourdain par le peuple, mais 40 ans plus tard, avec Josué. Vous vous souvenez, les sacrificateurs étaient rentrés dans l'eau, ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux et puis tout d'un coup, le Jourdain était à sec pour laisser passer le peuple. Alors évidemment, tout de suite, ces choses sont venues à leur esprit et de loin, ils ont vu ça. Et quand ils sont passés, qu'ils étaient de l'autre côté, les eaux sont revenues à leur place comme si de rien n'était. Alors évidemment, les fils des prophètes qui étaient là, les élèves qui étaient là, ont vu dans ce geste quelque chose qui leur a rappelé ce qu'ils connaissaient déjà. Parce que ce passage des rivières et des fleuves a une signification particulière. C'était véritablement l'entrée dans la terre promise pour le peuple hébreu. Et bien entendu, ce passage va revêtir un sens particulier dans l'histoire parce que à ce même endroit là, au Jourdain, 850 ans plus tard, Jean-Baptiste va baptiser. Déjà, cette image de la traversée des rivières et des fleuves était conçue comme une image du baptême. L'apôtre Paul va en parler. Regardez dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1er, dit ceci. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » L'apôtre Paul reprend cette image de la traversée de la mer Rouge et dit « Voilà, en fait, c'est une image du baptême. Ils ont été comme baptisés dans la mer Rouge à ce moment-là. » Et ici, Élie et Élisée traversent le Jourdain. Le baptême est toujours l'indication de quelque chose de nouveau, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle étape. C'est le début de quelque chose d'autre, de nouveau. C'est une nouvelle expérience avec Dieu. C'est la marque d'un engagement particulier envers Dieu. Et c'est le cas pour Élie et Moïse. Je ne suis pas en train de dire qu'ils avaient besoin d'être baptisés, là. Mais je suis en train de dire que cette image, la traversée du Jourdain, à pied sec, par le miracle de Dieu, contenait des éléments qui se trouvent dans le baptême. Nouvelle étape, nouvel engagement, nouvelle vie. Nouvelle vie pour Élie, parce que Élie, maintenant, va monter au ciel. Sans passer par la mort. Nouvelle vie pour Élisée, qui maintenant va prendre ce manteau, qui doit prendre ses chaussures de son prédécesseur. Et il était une grosse pointure. Il va falloir que Élisée maintenant prenne la relève de ce géant prophète de l'Ancien Testament. Nouvelle vie, nouvel engagement, nouvelle phase, nouvelle expérience pour l'un comme pour l'autre. Une image du baptême d'eau. Maintenant, je reviens dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, où le début de cette histoire nous était raconté. Deux Rois, chapitre 2. Alors qu'ils sont maintenant de l'autre côté du Jourdain, texte nous dit qu'ils ont continué à marcher. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, au verset 9, il est dit « Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Il pourrait dire plein de choses. Et vous connaissez la réponse. Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Ouh là là, dit Élie, ça c'est difficile parce que c'est pas moi qui contrôle ça, c'est Dieu. Mais écoute, si tu me vois monter au ciel, tu recevras ce que tu as demandé de la part de Dieu. Et ils ont continué leur chemin. C'est une demande incroyable. C'est une demande qui nous rappelle un peu ce qui s'était passé avec Salomon, vous vous souvenez ? Où Dieu lui avait dit, qu'est-ce que tu veux ? Donne-moi la sagesse pour conduire ce peuple. Il aurait pu dire, donne-moi la richesse, donne-moi la victoire sur mes ennemis, donne-moi un grand palais. Non, non, donne-moi la sagesse. Et Dieu lui dit, je te donnerai la sagesse. Et je te donnerai en plus tout ce que tu ne m'as pas demandé. En fait, cette double portion que Élisée demande à Élie correspond à l'héritage de l'aîné de la famille. Dans l'Ancien Testament, l'aîné allait recevoir une double portion par rapport aux autres. Et Élisée demande à Élie, « Je voudrais être ton fils aîné et recevoir une double portion de cet esprit qui t'a animé. » Et j'aime cette réponse parce qu'elle traduit le fait que Élisée se sent dépourvu pour remplir la mission qu'il voit venir pour lui. Il se sent faible et pécheur, il se sent incapable de prendre la relève de cette grande pointure Élie, et il sait que pourtant, c'est à ça qu'il est appelé. Donne-moi une double portion. Il voit venir devant lui cette mission écrasante, cette tâche surhumaine. Et il dit à Dieu, « Seigneur, donne-moi ton esprit, mais en deux caisses !» Même si c'est difficile, l'histoire nous dit que Élisée va voir Élie monter au ciel. Alors on sait que Élisée va recevoir cette double mesure de l'Esprit de Dieu. Maintenant, si ce passage de la rivière nous a orientés vers l'image du baptême, alors il y a aussi quelque chose qui va avec le baptême. Le baptême, ce n'est pas simplement et ce n'est pas seulement le départ d'une nouvelle vie, ce n'est pas un nouvel engagement avec Dieu seulement, ce n'est pas seulement la réception du pardon de nos fautes, mais il y a une promesse qui est ajoutée à cela. Regardez avec moi dans le livre des Actes au chapitre 2, la promesse qui est faite en rapport avec le baptême. Actes chapitre 2, vous vous en souvenez, c'est le moment de la Pentecôte. Les disciples animés du Saint-Esprit prêchent Jésus-Christ le Sauveur. Et tout d'un coup, ceux qui sont là, les sacrificateurs en premier, qui sont dans le temple, réalisent ce qui s'est passé 50 jours avant. La mort de Jésus, au moment de Pâques. Tout d'un coup, les choses se mettent en place dans leur esprit. Et ils vont vers les disciples, c'est au chapitre 2 du livre des Actes, au verset 37, il est dit, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous remarquez à quel point, dans l'histoire que nous venons d'évoquer de l'Ancien Testament, ces deux éléments sont présents. Baptême d'eau, ils ont traversé ce Jourdain. Baptême du Saint-Esprit parce que Élisée a demandé à Dieu une double portion de cet Esprit-là. Et nous savons qu'il l'a reçu. Ces deux baptêmes, baptême d'eau et baptême d'esprit, baptême de feu, sont simultanés. Vous vous souvenez, les dernières paroles que Jésus donne à ses disciples lorsqu'il les envoie en mission, évangile selon Matthieu, chapitre 28, dernières paroles probablement que Jésus va laisser à ses disciples alors qu'il s'en va lui aussi au ciel. Ces paroles sont rapportées au verset 19, où il est dit, évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême d'eau et ce baptême de feu sont simultanés. Seulement voilà, Élisée, comme vous et moi, se sent terriblement dépourvu pour la mission que Dieu lui demande. Et le Seigneur nous donne à chacun aussi cette mission parce que nous avons accepté de marcher comme un disciple de Jésus, c'est-à-dire de suivre son exemple. Et je reviens dans le deuxième livre des Rois au chapitre 2, parce qu'il y a là la clé pour l'accomplissement de cette promesse. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, c'est le verset 11. « Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Ils ont probablement marché un certain temps, d'après ce que le texte dans l'original nous laisse supposer. Ils ont marché et marché, et ils ont parlé. J'aimerais savoir de quoi ils ont parlé. Parce que quand un homme sait qu'il s'en va, il va dire les choses les plus importantes à ceux qui sont là pour écouter. Mais ce n'est pas écrit. Il lui a laissé son testament. Et puis tout d'un coup, un char de feu, nous dit le texte, quelque chose qui est indescriptible, est venu prendre Élie et l'a emmené au ciel. Élie a laissé tomber son manteau, signe de son ministère. Élisée, dans signe de deuil, a déchiré le sien et a pris le manteau de Élie. C'est sans aucun doute quelque chose qui est resté gravé pour toujours dans l'esprit de Élisée. Un spectacle inoubliable. Ne me demandez pas à quoi ça ressemblait. Dieu qui vient chercher Élie dans un char de feu et qui l'emmène au ciel et qui laisse Élisée là, seul, avec le manteau d'Élie. Élisée reprend son chemin. Il fait demi-tour. Il arrive au Jourdain, en crue toujours. Et vous savez comment Élisée va prendre le manteau d'Élie, le rouler, frapper les eaux qui vont s'ouvrir pour le laisser passer seul, pour recontinuer la tâche que Élie avait commencée. Il y a dans cette image les deux choses que je trouve dans le baptême. Le baptême d'eau, dans lequel, c'est vrai, nous souhaitons et nous voulons recevoir le pardon de nos fautes. Parce que ce passé, nous n'en voulons plus. Nous le connaissons trop bien, nous le connaissons avec tout ce qu'il a de regrettable, et nous voulons nous en débarrasser. Alors l'image est très belle parce qu'au fond de ce baptistère va rester la vieille histoire que nous avons amenée dans ce baptistère. Et lorsque nous en ressortons, c'est une image de la résurrection, ressuscité à une nouvelle vie, un nouvel engagement. Tout ce passé est liquidé, fini. On recommence à nouveau, plus tout seul cette fois-ci, mais à deux. Mais il y a un autre élément aussi. Cet autre élément, c'est cette promesse du Saint-Esprit. Parce que souvent, nous voulons nous débarrasser de ce passé que nous ne voulons pas voir, qui nous colle au dos. Nous voulons nous en débarrasser, nous voulons que le Seigneur oublie tout ce que notre passé a été sans lui. Mais est-ce que nous voulons vraiment avoir en même temps ce baptême de feu pour que par son Esprit, nous devenions semblables à lui? Il ne s'agit pas simplement d'obtenir le pardon des péchés et c'est liquidé. Maintenant, le Seigneur voudrait en même temps nous transformer à son image, nous faire ressembler à lui. Et c'est pour ça qu'il nous donne son Esprit Saint. Mais est-ce que nous sommes prêts à ce que le Saint-Esprit fasse son action en nous? Ou est-ce que nous sommes simplement prêts à être lavés, point, et à continuer comme avant, propre, pour un moment? Est-ce que ce baptême de feu de l'Esprit en même temps que le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir, cette promesse du Saint-Esprit, pour que le Seigneur agisse et nous rende victorieux? Il y a un passage dans le livre des psaumes que j'aimerais regarder avec vous. C'est le psaume 66. Ce texte reprend cette expression qui m'a donné un titre à la prédication d'aujourd'hui. Psaume 66. Au début, il est dit au verset 8, par exemple, « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à mon âme, il n'a pas permis que notre pied chancelle. » Un texte qui commence en louant Dieu de sa protection, de son soutien, de sa présence. Et puis un petit peu plus loin, au verset 12, il est dit ceci, « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Le Seigneur nous a fait passer au travers de l'eau et du feu. Et dans ce contexte-ci, le psalmiste parle effectivement des épreuves et des difficultés. Mais il le dit, en nous faisant passer par l'eau et par le feu, tu nous en as fait sortir et tu nous as donné l'abondance. Alors lorsque nous acceptons le Seigneur comme notre sauveur personnel, lorsque nous voulons que notre vie prenne un nouveau tournant, une nouvelle dimension, et que nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, nous acceptons son baptême, nous passons effectivement par l'eau et par le feu. Et c'est vrai que pour certains, ça a été une épreuve difficile, des luttes pendant un certain temps. Mais lorsque le Seigneur nous fait passer par l'eau et par le feu du baptême, il veut non seulement nous pardonner, mais nous donner sa puissance pour que notre vie soit changée, transformée, renouvelée, plus comme avant, mais changée à son image. Aujourd'hui, Marcel va recevoir le baptême d'eau et le baptême de feu. Et je prie que, pour nous tous, qui avons peut-être déjà été baptisés, nous prenons conscience que nous avons reçu aussi ce jour-là le baptême de feu. Mais est-ce que la porte était ouverte pour que ce feu agisse, qu'il remplisse son rôle, qu'il fasse la transformation qu'il a besoin d'accomplir? Est-ce que nous avons ouvert notre cœur à cela? Pourtant, il était là, il l'a mis à notre disposition et il attend. Il attend de faire en chacun d'entre nous ce qu'il n'a peut-être pas encore pu faire, mais qui est dans son plan pour l'éternité. Amen.